16, et hier on a eu l'occasion d'étudier le verset 12. Ce matin, bien sûr, on poursuit avec le verset suivant. Donc, on va prier et on va rendre grâce au Seigneur pour ce moment et on va se préparer à démarrer notre courte méditation pour ce matin. Alors, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes. Merci d'être présent parmi nous. Merci, Seigneur, de nous guider, de nous instruire, de nous nourrir. Plusieurs, Seigneur, ont changé le sobriquet de cette réunion matinale, non plus, Seigneur, simplement comme une bénédiction matinale, mais comme un déjeuner spirituel. Et nous avons cette assurance, Seigneur, que tu nous donnes aujourd'hui le pain qui nous est nécessaire pour cette journée, mais de surcroît, à son effet quotidien, nous savons, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir porté le fruit pour lequel elle a été proclamée. Alors nous savons, Seigneur, que cette parole que nous recevrons aujourd'hui apportera non seulement une connaissance, une prise de conscience, mais aussi des transformations dans notre vie, afin que mon frère, ma sœur, moi-même, soyons des instruments utiles, agréables et profitables entre tes mains. Alors, Seigneur, parle-nous, instruis-nous, dirige-nous, ouvre notre entendement et permets-nous, Seigneur, d'avoir ce désir de t'être agréable, de faire ta volonté et de nous assurer d'être dans l'état dans lequel tu désires que nous soyons. Alors, bénis-nous, visite-nous, instruis-nous, abreuve-nous, nourris-nous. Fais ce que tu sais bon, Seigneur, pour nos vies et que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je relis pour vous l'ensemble du passage de ce matin. Je vais juste vérifier qui était la dernière personne que j'ai saluée. D'accord. Juste pour voir qui je vais devoir saluer tout à l'heure. Alors, Philippiens au chapitre 4, du verset 12 au verset 16. Et par la suite, je vais relire le verset 13, qui est la base de notre réflexion pour ce matin. Alors, Philippiens 3, le verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu » en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et je relis donc pour vous le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Hier, on a vu qu'on était comparé à des athlètes et on concluait hier avec cette invitation pour vous et pour moi d'être des champions et des championnes pour Christ, de courir notre course d'une façon qui lui est agréable, de courir notre course qui est jugée par le juste juge, par le divin arbitre, de courir notre course d'une façon qu'il puisse effectivement la sanctionner positivement, favorablement, et qu'on puisse obtenir le prix qui est attaché à la course que l'on parcourt ou que l'on fait de notre vivant. Et aujourd'hui, on continue dans cette même pensée où Paul va dire « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi en parlant du prix rattaché à sa course, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Frère, le terme « adelphos » en grec, qui s'écrit « A-D-E-L-P-H-O-S ». Je répète, A-D-E-L-P-H-O-S, qui parle effectivement de la fratrie, donc du groupe ayant un même père et une même mère, des frères, des sœurs, mais qui parle aussi de concitoyens, qui parle de collègues, qui parle d'alliés, qui parle de personnes réunies en un même lieu, observant une même chose. Et c'est là où je crois que l'exhortation de ce matin devient bonne quant à ce terme Adelphos. Il nous faut être conscients que notre course est observée par des témoins. Je répète, il faut être conscient que notre course est observée par des témoins. Il est vrai que nous serons les seuls à être jugés pour notre propre course, que personne ne sera jugé pour la nôtre, et qu'on ne peut rendre coupable ou rendre redevable quelqu'un pour la course que nous menons. C'est nous-mêmes qui avons des comptes à rendre à Dieu. Quant à, avons-nous effectivement parcouru la course qu'il voulait qu'on parcourt? Avons-nous parcouru la distance? Avons-nous été dans le temps qu'il désirait? Avons-nous parcouru cette course ou fait cette course de la manière qu'il le désirait? Tout cela, c'est nous qui en sommes totalement responsables et qui aurons à payer le prix par rapport à notre obéissance ou à notre désobéissance à Dieu. Mais ici, un point important, c'est que Paul est conscient qu'il y a des gens qui sont autour de lui. Non seulement parce qu'il est un leader, parce qu'il est un père en la foi, parce qu'il est un des apôtres, des disciples de Christ, et qu'il sait que lui-même est un enseignant du Seigneur et qu'il y a des gens qui reçoivent son enseignement, qui le mettent en pratique et qui regardent aussi son vécu de tous les jours comme étant un exemple. Plus encore, Paul va lui-même dire « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. » Et nous devons être nous aussi conscients qu'il y a des gens qui nous observent. Que ce soit parce qu'on serait papa et qu'on a des enfants, que ce soit parce qu'on serait maman, qu'on a des enfants, et dans notre cas, parce qu'on est tonton et tantie, ben il y a des plus jeunes qui nous regardent. De surcroît, étant donné la position que le Seigneur nous a donné la grâce d'occuper au sein de son corps, au sein de l'église locale, ben il y a des gens qui portent tout à fait naturellement leur regard vers les pasteurs que Dieu leur a donnés. Et les pasteurs en tant que tels, ou les personnes qui servent de modèle et qui sont des anciens, ben ces personnes ont un effet sur la vie de ceux qui les regardent. Alors on doit être conscient qu'il y a des gens qui vont calquer notre agissement et que si nous lâchons en cours de route, certains vont se dire « mais pourquoi moi je continuerai si lui-même a lâché ?» Soyons clairs encore une fois, s'il lâche, ils sont les seuls responsables d'avoir laissé tomber la course, mais moi je suis quand même coupable d'avoir été dans ce cas-là une pierre d'achoppement. Si je tombe, ben il y a des gens qui vont tomber avec moi. Il y a des gens qui vont lâcher les voies de Dieu avec moi. Ça fait partie d'avoir une position de leadership ou d'avoir un rôle de leadership. Et voilà pourquoi il est important, lorsque le Seigneur nous donne conscience qu'il y a des gens qui sont en train de nous regarder, de veiller à ce que nous faisons, de veiller à ce que nous disons, de veiller à comment nous nous comportons, de veiller à ce que les gens vont observer de nous, parce que ça va être pour eux un exemple à suivre ou à ne pas suivre. Dans ma vie, j'ai eu des exemples merveilleux de parents spirituels. J'ai eu des exemples merveilleux de gens qui ont couru la course avec fidélité et avec un côté grandiose. Ils ont été pour moi des exemples de tous les jours et je pourrais en nommer de nombreux cas. Mais il y a aussi des gens de qui j'ai appris, qui étaient dans le ministère, mais qui ont fait des faux pas, et d'eux, j'ai aussi appris. J'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire. J'espère que dans le maximum des actions que je pose, dans le maximum des paroles que je prononce, des attitudes que j'affiche, j'espère que je montre aux gens quoi faire et non pas quoi ne pas faire. Donc, soyons conscients. Il y a des gens qui vous regardent. Soyons conscients, il y a des gens qui observent nos gestes, nos paroles, nos actions, nos réactions. Et de là, ils vont se faire une idée de ce qu'est un chrétien, de ce qu'est la chrétienté. Alors voilà pourquoi il est important de veiller à ce que nous faisons et à ce que nous sommes. De surcroît à ça, Paul va dire, je ne pense pas avoir saisi le prix. Il dit, frère, je ne pense pas avoir saisi le prix. Le verbe penser, c'est le verbe logizomai en grec. L-O-G-I-Z-O-M-A-I. Je répète, L-O-G-I-Z-O-M-A-I, qui veut dire calculer, faire le décompte, sous-peser une chose. Saisi, le même terme qu'on a vu hier, catalambano, qui veut dire s'approprier, prendre possession, atteindre, faire nôtre d'une chose. Paul va dire aux frères qui le regardent, à ses témoins de sa course, il va leur dire, regardez, je ne pense pas l'avoir saisi. Et le terme ici, penser, c'est le terme, je ne suis pas en train de me dire à moi-même. Je fais le calcul et je sais très bien que je n'ai pas encore saisi le prix. Et là, c'est une notion importante pour nous en tant que serviteurs de Dieu. Être honnête et humble dans notre analyse de nous-mêmes et dans ce que nous affichons de nous-mêmes. Il y a des gens qui affichent beaucoup de côtés grandioses, mais de surcroît à leur réussite et à leur succès et à leur haut fait, il y a aussi une certaine notion, une certaine portion d'orgueil, de fierté personnelle qui s'empare d'eux. La Bible nous dit, et on l'a répété à maintes reprises durant nos études depuis le début du confinement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a des gens, tu les entends parler, puis on dirait qu'ils sont déjà arrivés à la parfaite stature de Christ, qu'ils ne sont pas en train de tendre vers la chose, mais quand on les écoute parler, on dirait qu'ils sont déjà arrivés là. Paul va être très honnête dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Il va être honnête dans ses faiblesses, il va être honnête dans les limites qui sont les siennes. Il ne va pas se présenter comme un super-héros. Il va dire, oui, soyez influencé par l'exemple que je peux être, parce que moi-même, j'essaie de calquer Jésus. Alors, ce faisant, quand vous me calquez, ben, vous essayez aussi de calquer Jésus. Mais Paul va dire, regardez, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, voilà ce que je finis par faire. Il est en train de dire, les bonnes choses que je voudrais faire, très souvent, je ne les fais pas. Et les mauvaises choses que je ne veux pas faire, ben très régulièrement, je tombe là-dedans et je les fais. Alors, Paul était honnête. Paul était humble dans son approche. Il n'était pas Superman spirituel. Il était monsieur et madame tout le monde qui fait son maximum, qui fait son possible, qui tient durement son corps pour ne pas pécher contre Dieu. Et quand il s'affichait devant les gens, il s'affichait avec une telle dose d'humilité que les gens disaient que lorsqu'on regarde ses écrits, il est impressionnant, mais quand on le voit en personne et quand on l'écoute en personne, on est beaucoup moins impressionnant. Paul le savait, Paul n'essayait pas de s'afficher comme étant autre chose que ce qu'il est. Et ça devrait être notre attitude aussi, une attitude d'honnêteté dans ce que je suis et une attitude d'humilité dans l'analyse que je fais de moi-même. Et Paul va dire, voici, j'ai pas atteint le but, j'ai pas encore saisi la couronne et la récompense, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Oublier, c'est le terme epilantanomai, je répète, un peu compliqué ce terme-là, epilantanomai, donc E-P-I-L-A-N-T-H-A-N-O-M-A-I. Je répète, E-P-I-L-A-N-T-H-A-N-O-M-A-I. Qui veut dire oublier, qui veut dire négliger, ne plus chérir, perdre de l'intérêt pour une chose. Paul va dire, je perds de l'intérêt pour les choses du passé. En fait, Paul essaie de ne pas ruminer perpétuellement les échecs du passé. Il y a certaines personnes d'entre nous qui vivent toujours axées dans le passé. Axées dans le passé par rapport aux fautes qui ont été les leurs, par rapport aux manquements qui ont été les leurs, et ils ne peuvent sortir de cette culpabilité d'hier. Soyons clairs, si j'ai confessé mon péché à Christ, si je lui ai demandé pardon d'un cœur sincère, mon péché, ma faute a été effacée. Ce n'est pas à moi de revenir constamment là-dessus. Oui, je vous ai dit dernièrement, tout pour le restant de l'éternité, je me rappellerai que je suis un éternel gracié. Et je veux continuer à me rappeler que j'ai été gracié. Mais si j'ai été gracié, ça veut donc dire que ma faute, ma culpabilité a été enlevée. Et nous devons vivre comme des gens qui savent qu'ils ont été pardonnés, qui vivent avec cette reconnaissance de la grâce de Dieu ou envers la grâce de Dieu, qui vivent avec ce sentiment incommensurable de gratitude envers Dieu. Et cette gratitude les pousse à œuvrer, à agir correctement, parce qu'ils savent d'où ils ont été retirés. Donc Paul, point important pour ce matin, ne reste pas à ruminer ce qu'il avait fait. Paul savait très bien qu'il avait été un accusateur des frères. Paul savait très bien qu'il avait été un persécuteur des frères. Paul savait très bien qu'il avait accrédité le meurtre même d'Étienne. La lapidation d'Étienne, il était là, il a été pris à témoin, il portait les manteaux, les vêtements de ceux qui prenaient des pierres pour lancer sur Étienne. Alors Paul était très conscient de cela, mais Paul savait aussi que de ces fautes immenses qui étaient les siennes, il avait été déchargé, pardonné, gracié. Et en raison de cette grâce, il menait une vie qu'il voulait sans faille pour Christ, il menait une vie dévouée à Christ en raison de la grâce qui lui avait été faite. Donc quand on dit d'oublier le passé, c'est effectivement oublier les échecs, les péchés, les iniquités, mon statut d'autrefois. Mais de surcroît à cela, ben pour Paul, c'était aussi ne pas vivre et ne pas se satisfaire des accomplissements du passé. Je vous ai à plusieurs reprises, encore une fois, parlé de cet homme que je rencontrais il y a peut-être 25 ou 30 ans, qui me disait que 25 ans plus tôt, le Seigneur lui avait parlé, le Seigneur l'avait appelé à son œuvre, mais qu'il n'était jamais passé autrement ou outre l'appel de Dieu. Il avait stagné à cet endroit où Dieu l'avait appelé, mais il n'était jamais passé dans une fonction, dans un travail actif pour Dieu. Il s'était tout simplement contenté, heureux d'avoir été appelé par Dieu, mais il n'était pas passé à devenir actif pour Dieu. Donc il y a des gens qui restent dans les choses du passé, dans les événements grandioses du passé, dans les événements, dans les accomplissements d'hier aussi. Il y a des gens qui vont avoir marché pour le Seigneur pendant un certain temps en disant « Hey, j'ai été pasteur pendant un certain temps, puis après ça j'ai arrêté ». Puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On pose la question. Ou des gens qui vont dire, « Ah oui, le Seigneur m'a déjà utilisé pour faire telle ou telle chose. » Et on demande, « Mais depuis lors, qu'est-ce que le Seigneur a fait à travers toi? Ou qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? » Et puis, on n'a plus de réponse. Donc, Paul ne pouvait pas vivre ni se satisfaire des accomplissements d'hier. Et pour nous, ça devrait être la même chose. Gloire à Dieu pour ce que Dieu a accompli à travers nous, à travers les années. Je veux dire, nous, on s'est convertis, j'avais 8 ans, on était en 1978, 79, on se tournait vers Dieu, donc ça fait longtemps, ça fait 40 ans qu'on chemine avec le Seigneur. En 40 ans, on a des expériences. Depuis 98 que je travaillais auprès du pasteur comme son assistant, ben on a des expériences, on a des accomplissements. Il y a des événements qui étaient heureux et dont on pouvait être fier, mais on peut pas cheminer tout simplement en se rappelant les choses d'hier. Paul va dire, moi j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie les mauvaises choses en arrière, mais j'oublie aussi les grandes choses en arrière pour me porter vers l'avant. Et il y a des gens qui ne se portent pas vers l'avant, tout simplement parce que leur regard est tout le temps fixé à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont accompli, à ce que Dieu a fait pour eux hier. Soyons reconnaissants éternellement, mais portons-nous vers l'avant. C'est le mandat pour toi et pour moi, et Paul l'avait saisi, et c'est ce que Paul essayait de véhiculer à ses témoins qui le regardaient. Je ne suis pas fixé sur le passé. J'ai rejeté le passé, je ne l'ai plus chéri. J'ai perdu de l'intérêt pour ce qui était derrière. Pourquoi? Parce que devant, il y a encore plus grand, il y a encore plus grandiose. Et il dit qu'il se porte vers ce qui est en avant. Donc, pour nous, ça doit être un appel, une invitation à être positionné vers l'avenir, à s'ouvrir à l'avenir, à chercher la face de Dieu concernant l'avenir. Et si je cherche la face de Dieu concernant l'avenir, ainsi je me positionne par rapport à demain. Et c'est ce qu'on a exhorté les gens à faire lorsque la pandémie a commencé et lorsque le confinement est survenu. On vous a dit, on est en train de se préparer pour ce qui va venir après. Ben, se préparer pour ce qui va venir après, ça veut dire que je fais un travail sur moi-même, un travail dans ma relation avec Dieu, un travail dans la recherche de sa face pour connaître qu'est-ce qu'il veut de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi dans l'avenir et dans ce qui vient après la période actuelle. Donc, on se prépare pour les accomplissements d'hier. On oublie ce pour les accomplissements de demain. On oublie les accomplissements d'hier. On oublie les hauts faits d'hier parce qu'on est en train de se préparer à ceux qui vont venir demain. Paul, quand il dit qu'il est en train de oublier ce qui est en arrière et de se porter vers ce qui est en avant, Paul est en train de dire, moi, ce à quoi je veille, c'est à bien courir le reste de ma course. Parce que c'est pas parce qu'on a bien commencé une course qu'on la finit nécessairement bien. C'est pas parce que les premiers mètres, les premiers kilomètres ont été intéressants à un rythme soutenu avec une vigueur que les derniers kilomètres seront aussi glorieux. Il se pourrait qu'effectivement, à travers le temps, je ne finisse pas ma course. Il y a des gens qui ont commencé la course et qui ne l'ont pas terminée. Alors Paul va dire, moi j'oublie ce qui est en arrière. Parce que je me fixe vers l'objectif et je veux m'assurer de bien concourir pour le reste de ma course. On se rappelle, on a dit que cette course, elle est jugée par Dieu, observée par une foule de témoins. Donc, Paul est en train de dire, moi, le spectacle que je vais vous offrir, c'est une belle course. Et je pense que ça devrait être quand même l'objectif de chacun d'entre nous. Quand j'ai commencé dans le ministère, j'aime souvent retourner dans des histoires personnelles, dans des exemples personnels pour illustrer un enseignement. Quand j'ai commencé dans le ministère, je savais qu'un ouvrier devait être éprouvé. Et on a le droit d'éprouver un ouvrier. La Bible dit d'éprouver les esprits. Nous n'avons pas la connaissance infuse, nous n'avons pas le discernement infus. Donc, il est normal de reconnaître un ouvrier aux fruits qu'il porte. Et pour cela, ça prend du temps. Et j'étais conscient que les gens avaient le droit, lorsque j'ai été nommé pasteur, de vérifier à savoir est-ce que ce gars-là est réel, est-ce que ce gars-là est sincère, est-ce que ce gars-là est honnête, est-ce qu'il a ce que ça prend pour faire le travail. Et ce faisant, je disais aux gens, laissez-moi courir, et si vous aimez la course, embarquez avec moi. Et c'est ce que Paul est en train de dire. J'espère que la course que je cours va faire en sorte que d'autres veuille courir cette course. C'est pour ça que je me porte vers l'avant. C'est pour ça que je suis axé vers l'avenir, parce que je veux montrer aux gens vers quoi se diriger, vers quoi se porter, et c'est demain et non pas hier. Hier est passé, il est bien fini, je l'espère, pour chacun d'entre nous. Maintenant, c'est le temps de se porter vers l'avenir, de se préparer pour demain. Parce qu'il y a des générations qui nous regardent, il y a cette génération-ci qui nous observe et qui dit, voyons voir comment ces coureurs concourent et donnons-leur une vision belle, agréable de ce qu'est un champion pour Christ. Alors encore une fois, tu es un champion, tu es une championne, cours correctement, ne fais pas de surplace, ne retourne pas en arrière, cours vers l'avant, oublie ce qui est en arrière. Oublie les faux pas des premiers temps. Oublie les accomplissements des premiers temps. Pourquoi? Parce que devant, il y en a encore de plus grands pour toi, pour moi. Alors que Dieu nous bénisse ce matin. On va prier tout simplement pour remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Prier que le Seigneur nous permette d'être les champions qu'il désire que l'on soit dans nos courses respectives et qu'on puisse lui faire honneur et qu'on puisse être cet exemple qu'on a envie de suivre. Combien de fois, lorsqu'on regarde certains athlètes aux Jeux Olympiques, il paraît que lorsque les gens voient l'athlétisme, après ça, il y a une hausse des inscriptions dans les clubs d'athlétisme parce que les Jeux olympiques ont été une bonne feuille d'affichage ou une bonne présentation du sport. Certaines personnes ont vu des sports qu'ils ne connaissaient pas aux Jeux olympiques et dès que les Jeux olympiques ont terminé, ils ont été s'inscrire pour essayer de découvrir, de s'essayer à ce sport-là. En se disant, hey, je pense que j'aimerais ça ou je pense que je serais pas pire dans ce sport-là. Donc j'espère que dans notre course chrétienne, dans notre course avec Dieu, on suscite ce même exemple et ce même intérêt pour ceux qui nous observent. Alors prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous permets de courir. Merci Seigneur pour les fautes d'hier qui ont été pardonnées. On ne remercie pas pour les fautes, mais on remercie pour ton pardon, pour ta grâce et ta miséricorde. Merci aussi Seigneur pour les hauts faits que tu nous as permis de connaître, d'accomplir pour toi. On sait que tout cela n'était pas dû à nous-mêmes, mais à toi, à ta grâce, à ta provision et à ta toute-puissance qui agissait à travers nous. Mais Seigneur, nous voulons faire comme Paul. Nous sommes conscients que plusieurs nous regardent. Que ce soit dans le monde spirituel, comme le diable regardait Job et que toi tu l'honorais, nous savons aussi que le diable et toutes ses entités spirituelles nous regardent aussi dans notre course. Et nous ne voulons pas être une source de scandale, nous ne voulons pas être une source de déshonneur pour toi, mais nous voulons courir de façon, Seigneur, à ce que ça élève ton nom et que ce soit un exemple à suivre par les témoins, Seigneur, de cette terre. Tu vois les générations qui nous regardent, nos enfants, nos neveux, nos proches, nos amis, nos collègues, les enfants de l'Église, les hommes, les femmes de l'Église qui peuvent nous regarder courir. Je prie, Seigneur, que nous ayons tous cette conscience ouverte dans le fait, Seigneur, que des regards sont posés sur nous. Et qu'on ait tous, Seigneur, ce désir, cette volonté, et que nous prenions tous cette décision de courir de façon acceptable, de façon adéquate, de façon, Seigneur, à ce que tu puisses approuver notre course. Je prie, Seigneur, que ma sœur soit un exemple pour tous ceux qui portent les regards sur elle. Je prie, Seigneur, que mon frère soit un exemple pour tous ceux qui portent les regards vers lui. De même, Seigneur, je prie pour moi, dans ma propre vie, dans mon propre ministère, dans ma propre situation, que je puisse être l'exemple que tu désires que je sois. Non pas, Seigneur, un exemple qui lâche, afin que d'autres lâchent en cours de route. Non pas, Seigneur, un exemple qui trébuche, afin que d'autres ne trébuchent pas non plus. Et Seigneur, je prie que dans tout cela, nous restions honnêtes, sincères, reconnaissant que nous avons besoin de toi, reconnaissant, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi, et que tout ce que tu nous donnes à faire, Seigneur, c'est ta grâce qui nous permet de l'accomplir. Alors ce matin, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis-moi, Seigneur, que nous soyons des champions pour toi dans la course que tu nous permets de courir et permets-nous, Seigneur, d'avancer aujourd'hui. Parle-nous, instruis-nous, guide-nous et remplis nos cœurs de ta présence. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors on vous rappelle les inscriptions pour dimanche. Donc, 55 ans et plus si vous êtes une personne seule, 55 ans et plus si vous êtes en couple mais qu'une seule personne fréquente l'Église, et aussi 65 ans et plus si vous êtes membre, si vous êtes un couple. Donc vous appelez au numéro de l'Église 273-8295 dans le 514 pour vous inscrire et vous dites, vous appelez dès aujourd'hui. On est déjà en train de ramasser les noms, donc s'il vous plaît, appelez dès aujourd'hui pour vous inscrire. Les inscriptions doivent se faire semaine après semaine. Donc, qui sont les personnes qui se sont rajoutées à nous ce matin? Bonjour Milly, bonjour à Naomi, bisous Naomi, j'ai hâte de te voir, Dieu te bénisse. Bonjour à Vitar, à Javel, bonjour Soyla, Dieu te bénisse. Bonjour à Pascal, à Gabriel, bonjour Gaëtan. Bonjour à Ginette, s'il est avec toi ce matin. Bonjour à Indiren, à Natacha. Bonjour Ramon, Evelyne. Bonjour Florie, Louis, Hermana Susanna. Bonjour Didier. Bonjour Gérard. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je crois que c'est tout pour ce matin. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. N'oubliez pas, il faut appeler aujourd'hui pour les inscriptions pour l'assemblée. Ne tardez pas, ne laissez pas ça à vendredi. On veut avoir un peu plus les notions claires pour voir comment on s'oriente pour ce week-end. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez des champions et des championnes pour le Seigneur. Et encore une fois, à tous ceux qui nous regardent dans l'Hexagone, en métropole, en France, que Dieu vous bénisse. Joyeuse journée, fête nationale, joyeuse, joyeux 14 juillet à vous. Alors que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Bye bye.